La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, qu'est-ce donc que le vivant ? L'émission est enregistrée en public dans la grande salle du théâtre de l'Odéon. Je salue le public, je salue les auditrices et les auditeurs. Le thème, c'est donc le vivant. Aujourd'hui, des milliers de chercheurs se vouent à la biologie. Certains recherchent la vie ailleurs, loin dans l'espace, tandis que d'autres tentent de la créer ici-bas, in vitro, comme ils disent. Il est donc devenu nécessaire de se demander ce qui caractérise le vivant, de comprendre d'où il peut bien provenir, de dire ce par quoi il se connecte à l'inerte et aussi ce par quoi il s'en écarte. Cette affaire qui nous touche de près remonte loin. Chacun d'entre nous a compris un jour, en s'en émerveillant, que sa propre vie est un moment d'une longue histoire, une histoire continue, sans intermittence, une histoire qui a commencé sans lui et qui continuera avec d'autres que lui. Chacun d'entre nous se sait également suspendu au fil issu de la toile tissée par ses ancêtres. Dans ce long lignage, il y a de la nécessité, mais aussi du hasard, de la contingence, de l'imprévisible. Robert Desnos l'avait déjà dit à sa façon, en s'adressant ainsi à quelqu'un qu'il n'aimait guère. « Maudit soit le père de l'épouse du forgeron qui forgea le fer de la cognée avec laquelle le bûcheron abattit le chêne dans lequel on sculpta le lit où fut engendré l'arrière-grand-père » de l'homme qui conduisit la voiture dans laquelle ta mère rencontra ton père. Je ferme les guillemets que je n'avais pas manqué d'ouvrir et je donne la référence, La colombe de l'Arche, poème de Robert Desnos, qui fut plus tard chanté par Yves Montand sur une musique de Michel Legrand. Mais aujourd'hui, nous n'allons guère parler de poésie, quoique, mais plutôt de science avec mes deux invités qui ont accepté de venir débattre de cette question. Qu'est-ce donc que le vivant, et je les en remercie. À ma gauche, Pierre-Henri Gouillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste, ingénieur agronome, professeur à toutes sortes d'endroits, le Muséum National d'Histoire Naturelle, AgroParisTech, Sciences Po, l'ENS, il manque rien. Et vous venez de publier avec Jean-Louis Dessalles et Cédric Gaucherel un livre intitulé « Le fil de la vie », avec comme sous-titre « La face immatérielle du vivant ». Sous-titre qui m'a interpellé, parce que vous êtes connu pour être quelqu'un de plutôt matérialiste. On en rediscutera. Et à ma droite, Jean-Pierre Bibring, professeur de physique à l'Université Paris-Sud, astrophysicien à l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay. Vous êtes intervenu sur différents programmes spatiaux, notamment la mission Cassini-Huygens, qui a étudié Saturne et ses satellites, les missions Vénus Express et Mars Express. Et vous êtes surtout connu pour être le responsable scientifique de l'atterrisseur Philae de Rosetta qui s'est posé sur la comète Chury en décembre 2014. Et je vous ai d'ailleurs reçu tous les deux pour parler de cette aventure. Ma première question sera la suivante. Nous voyons bien que la physique et la biologie sont deux sciences différentes. Mais par quoi et en quoi ces deux sciences, à votre avis, diffèrent-elles? Si je vous posais la question en vous demandant d'y répondre en 180 secondes, que répondriez-vous? Je commence par le biologiste, pour commencer par les sciences qui sont les moins... Enfin bref.
Le moins dur, on va le dire comme ça. Je pense que la différence fondamentale entre la biologie et la physique réside vraiment dans une différence d'approche. Aujourd'hui, en tout cas, la biologie reste une science largement fondée sur les études expérimentales dont on essaye de tirer des lois générales, et pas du tout d'un système descendant, donc c'est une recherche inductive, alors que dans une recherche déductive, on va essayer de partir de principe et puis de voir ce que ça donne dans la réalité. Et donc en biologie, la difficulté, c'est qu'effectivement, on est noyé sous des données, sous des faits en quantité démentielle. La biodiversité, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est en même temps un piège, parce qu'il est très possible en biologie de passer sa vie à décrire encore et encore des phénomènes sans arriver à tirer le moindre chose générale. La recherche absolue d'une généralité est beaucoup plus forte chez les physiciens que chez les biologistes.
Nous attendons la réplique de Jean-Pierre Bibring.
S'il fallait vraiment voir la différence, moi je dirais que depuis 4 siècles, depuis Galilée, la physique essaye de de comprendre les lois qui structurent la matière telle qu'on la voit, mais la matière pour moi c'est le vivant aussi, c'est pas vrai que la physique c'est l'inerte et que la biologie serait le vivant, on va en parler je pense. Donc on essaie de voir ce qui est structurant, et ce qui apparaît maintenant c'est que pour comprendre la diversité que l'on voit, la structure ne suffit pas, il faut rajouter de la contingence. Donc la physique est en train de mettre beaucoup d'aléatoires et de contingents dans cette structure pour montrer qu'on a pu construire de la diversité. La biologie quelque part elle est partie de l'inverse, elle est partie du contingent, de l'aléatoire, du hasard. C'est bien ça que j'ai compris dans ce que Darwin et l'évolution voulaient nous dire au siècle dernier. Et maintenant, on voit que la biologie est amenée à retrouver les structures dans lesquelles l'aléatoire se promène. Donc, quelque part, on se retrouve. On part de points de vue différents. La physique, les structures, puis l'aléatoire. La biologie, le contingent auquel on essaye de mettre des structures. Et l'un comme l'autre, on va essayer de comprendre, entre autres, ce qu'est le vivant.
Mais si on applique trop la physique à la vie, au vivant, est-ce qu'on ne risque pas de passer à côté de certaines propriétés du vivant qui seront trop mécanisées par le fait que la physique procède toujours d'une démarche un petit peu mécanique quand même?
Ce que l'on dit là, à savoir qu'il y a un risque pour la physique de passer à côté de quelque chose, c'est vrai autant de la biologie que d'autres disciplines auxquelles la physique se prête. Si on veut essayer de comprendre par les lois de la physique la diversité du monde planétaire tel qu'on le voit aujourd'hui, on va aussi à des écueils si on est trop structurant. Donc la nécessité de mettre du contingence dans tout processus d'évolution, je pense qu'il n'est pas spécifique à la physique, il est spécifique à l'ensemble de la démarche scientifique.
Pierre-Henri Gouillon, est-ce que vous seriez d'accord, vous, pour dire que la biologie continue de bénéficier d'une sorte d'extraterritorialité par rapport à la physique, comme le disait François Gadagonier, c'est-à-dire que la biologie résonne à partir de concepts, de fonctions, qui ne s'appuient pas directement sur des concepts de la physique?
Je pense que la biologie, effectivement, résonne sur des concepts qui ne sont pas exclusivement ceux de la physique. Et déjà, effectivement, Jean-Pierre Bibring a rappelé que la physique, au fond, démarrait en tant que science vraiment construite à partir, disons, de Galilée. La biologie, elle commence comme une science vraiment construite à partir de Darwin. Ça fait beaucoup moins longtemps, ça fait juste 150 ans. Darwin, c'est sans doute le premier, non, c'est le deuxième, il y a eu Lamarck avant, qui ont cherché vraiment à tirer des lois générales de l'observation de ce fouillis qu'on trouvait dans la diversité. Et ben, simplement Lamarck, il était le premier, sauf que tout ce qu'il a dit était faux pratiquement, et donc c'est Darwin qui est le vrai fondateur de la biologie en tant que science aujourd'hui, et donc c'est très récent. Alors bien sûr tout ça s'appuie sur des lois physiques, et un des livres qui a révolutionné la pensée en biologie, parce que l'une des questions qu'on se posait en biologie c'était de savoir comment pouvait être hérité les caractéristiques des organismes, d'où vient l'hérédité, ce qui a donné naissance à la génétique au XXe siècle. Et donc, quel était le support matériel de cette hérédité? Je pense que tout le monde dans la salle sait à peu près que c'était en 1953 qu'on a compris la structure de l'ADN et qu'on a commencé à avoir une idée précise de la façon dont se transmettait cette information héréditaire. Mais il y avait eu un livre qui avait précédé et qui a considérablement influencé d'ailleurs l'un des deux découvreurs de l'ADN, qui s'appelait Francis Crick. C'est le livre de Schrödinger, « Qu'est-ce que la vie ?», publié quelques années plus tôt.
Voilà. J'ai apporté aussi.
Voilà, tous les deux. Et dans lequel Schrödinger... bien sûr fait des erreurs, mais en même temps pose l'idée qu'il doit exister une très grande molécule avec un code, et que cette molécule doit pouvoir échapper à la destruction, au désordre, d'une manière ou d'une autre.
Le sous-titre de cet ouvrage est « De la physique à la biologie », et dès la page 2, Schrödinger pose la question à laquelle il va tenter de répondre. Comment peut-on expliquer à l'aide de la physique et de la chimie des événements qui se produisent dans l'espace et dans le temps, dans les limites spatiales d'un être vivant? Et il répond ceci, l'incapacité évidente de la physique et de la chimie actuelle à rendre compte de pareils événements n'est nullement une raison pour douter de la possibilité pour ces deux sciences d'en donner un jour une explication. Fin de citation. Ce livre est paru en 1944. Où est-ce qu'on en est trois quarts de siècle plus tard?
La biophysique a fait d'immenses progrès, déjà on peut le dire, hein, aujourd'hui justement l'étude de l'ADN se fait aussi bien par des méthodes physiques que par des méthodes chimiques ou biologiques, et évidemment aujourd'hui toute une série de choses qui paraissaient mystérieuses à l'époque sont relativement explicables. Le code, on le connaît, je pense que tout le monde connaît les quatre lettres de l'ADN. Malheureusement, en fait, tout le monde connaît ces quatre lettres ATGC, personne ne sait bien à quoi ça correspond. Il faut voir que ça correspond bien à des molécules particulières qui s'associent, que ça se recopie, que ça peut être lu, que cette information héréditaire est effectivement codée, lue, recopiée, et que l'idée d'ailleurs qu'avait développée Schrödinger, qui était que cette hérédité devait être inscrite sur ce qu'il a appelé un cristal apériodique. C'est une idée géniale. C'est-à-dire l'idée, donc, qu'effectivement, il faut absolument quelque chose d'aussi solide qu'un cristal, mais il faut qu'il soit apériodique, parce qu'un cristal normal, ça contient pas beaucoup d'informations, puisque ça se répète tout le temps la même chose, et qu'il fallait un cristal apériodique de façon à pouvoir écrire un message. Et ça, cette idée-là, elle a été pleinement démontrée avec la connaissance qu'on a aujourd'hui de l'ADN. Et c'est comme un élastique que vous tortillez, vous voyez, ça fait des super hélices, etc. Et puis pour la lire, il faut l'ouvrir, il y a des tas de protéines qui savent détortiller l'ADN, l'ouvrir, aller recopier des morceaux, faire des choses. Donc tout ça, c'est de la physique. Je pense que la physique est la seule science qui produise, au sens vraiment pur, au fort du terme, des lois, c'est-à-dire des choses qui sont des caractéristiques de l'univers et qui ne dépendent pas d'autres choses qui... Ce que dans le terme gödelien, on pourrait appeler les postulats de départ, indémontrables, mais qu'on peut juste vérifier. La biologie, au fond, n'a pas besoin de lois qui soient que à elle, mais elle a des processus qui sont uniquement à elle, c'est-à-dire qu'elle étudie dans le vivant quelque chose de très particulier, c'est justement ces structures apériodiques qui se reproduisent, l'hérédité. L'hérédité, c'est vraiment la particularité du vivant. Et c'est ce qui fait qu'un être vivant, pour moi, n'est pas la même chose que de la matière inanimée. C'est une forme très particulière, c'est une forme totalement improbable, si vous voulez, hein. Je veux dire que l'ensemble des individus vivants qu'on trouve sur Terre, il n'y a aucun moyen de les expliquer simplement par des lois physiques. Il va falloir rajouter cette idée de cristal apériodique, cette idée d'information et la sélection naturelle de Darwin qui va sélectionner les informations capables de produire des organismes qui les reproduisent bien. Donc un processus beaucoup plus complexe qu'il n'en a l'air et qui est la spécificité de la biologie.
Voilà. Nous allons y revenir. J'ai dit en introduction qu'il n'y aurait pas de poésie aujourd'hui, mais c'est pas tout à fait vrai. Léon Bonafé va nous lire un poème qui s'intitule Parlerie de la vie et va nous le présenter.
C'est un poème d'un poète brésilien qui s'appelle Carlos Drummond de Andrade. Comme la vie se mue, comme est la vie muette, comme la vie est nue, comme la vie est nulle, comme la vie est tout, tout cela qui se perd sans même de profit, comme elle est le sésame d'une autre vie nouvelle qui devient vieille avant de rompre le nouveau, comme la vie est autre, comme elle est toujours autre que celle que l'on vit, comme la vie est vie, même quand elle est morte en sculpture de vie, comme la vie est forte, prise dans ses menottes, comme la vie fait mal quand elle enlève son habit d'argent céleste, comme la vie est si, entremêlée de ça, comme la vie est belle, car la vie est panthère, à la fougue brisée, comme la vie est folle, imbécile, bouchée, et pourtant enflammée de se brûler en flammes, comme pleure la vie de savoir qu'elle est vie, et que jamais, jamais ne la prend au sérieux, l'homme, ce loup-garou. Comme elle rit, la vie, à chaque matin de sa propre absurdité, et à chaque moment offre à tous de nouveau un étrange cadeau. Comme elle joue, la vie, à la paix, à la guerre, peuplant toute la terre de lois et de fantômes, comme elle joue de son vieil orgue mécanique, transformant une valse en un pur Vivaldi. Comme la vie vaut mieux que la vie elle-même, toujours ressuscitée, en fleurs et en fourmis, dans le caillou qui roule, poitrine désolée, cœur de celui qui aime. Et comme elle se sauve d'une seule parole, écrite dans le sang au jour de la naissance, amour, vie d'amour.
Jean-Pierre Bibring, vous cherchez la vie ailleurs que sur Terre, sur des comètes ou sur des planètes. J'ai trouvé une définition de ce qui est vivant dans la critique de la faculté de juger de Kant. Kant dit ceci, « Est vivant ce qui se reproduit, se répare et se développe tout seul. » Fin de citation. Est-ce que ça vous aide, une telle définition, pour reconnaître le vivant quelque part? Pour le reconnaître, il faut déjà le connaître.
Bien sûr, et c'est bien la difficulté dans laquelle on est tous, et c'est aussi la raison pour laquelle je m'ose à être dans un débat où j'ai jamais travaillé sur le vivant, à vrai dire. Il faut être intrépide pour inviter un physicien à parler du vivant. Et la seule raison pour laquelle on peut concevoir qu'il y a une certaine pertinence, c'est qu'effectivement, dans la mesure où on essaie de comprendre ce qu'est le vivant sur Terre et comment il est apparu, on essaie de regarder ailleurs si on peut en trouver soit des traces fossiles, des traces d'avant-scène, ou bien, voire même des réalisations. Donc on est obligé de se poser la question de savoir ce qu'on cherche, qu'est-ce que le vivant. À vrai dire, je réalise que la biologie est en train de faire ce que la physique a fait déjà pas mal, et qu'elle est en train de faire, de bousculer tellement sa propre réalité, elle change tellement ses paradigmes que même les mots qu'on utilise probablement ne sont plus réellement bons, et en particulier la notion de vie. Pour chacun, le vivant est opposé à l'inerte. On a tous pensé à un moment donné savoir la différence entre une pierre et un arbre. Et plus on rentre là-dedans, plus on s'aperçoit que c'est pas si simple de traduire cette différence. Et aussi, tout le monde pense que le vivant, en général, s'oppose à la mort. C'est toujours ça, les deux extrêmes, surtout dans la pensée asiatique, où on a toujours la volonté de concevoir l'évolution. Mais vivant et mort, quand on lit le livre dont on vient de parler, qui est remarquable, non pas celui de Schrödinger, mais celui de Pierre-Henri Gouillon et de ses collègues, on comprend que le vivant et la mort ne s'opposent pas, puisque le vivant est caractérisé comme justement la pérennité de quelque chose, d'une information. Et cette pérennité, elle va au-delà du fait que ceux qui portent cette pérennité naissent et meurent. Mais donc le vivant ne s'oppose pas à la mort, il a besoin effectivement de la mort puisqu'on passe de génération en génération, mais il y a quelque chose de pérenne là-dedans. Et c'est cette notion de pérennité qui apparemment devient la plus pertinente pour caractériser le vivant. Et c'est ça qui quelque part est intéressant de mon point de vue, c'est que on s'aperçoit qu'à partir du moment où le vivant est apparu quelque part, par cette pérennité, on peut plus s'en débarrasser. Depuis 4 milliards d'années, le vivant sur Terre, il s'est trouvé un tas de formes, il s'est adapté à un tas de réalités. Vous pouvez faire toutes les volontés d'extinction que vous voulez, il va continuer. Et plus on travaille sur cette question-là, comme on essaie de le faire pour comprendre ce qui fait que sur Terre c'est apparu, plus on s'aperçoit qu'il a fallu une séquence de contingences qui fait que la question se pose réellement de savoir si le vivant tel qu'on le définit ici n'est pas quelque chose de totalement adapté à notre propre monde planétaire qu'est la Terre, et même pas forcément une autre planète, ou à notre système, ou peut-être à la galaxie, mais cette chose est totalement ouverte. Et donc, travaillant sur ces questions de l'origine du vivant, on est amené à se poser la question de savoir comment c'est apparu. Mais tout à l'heure, il était dit, on va chercher la vie ailleurs, en particulier sur les comètes. Non, on va pas... Personne, je pense, a imaginé que le vivant tel qu'on le considère, ce soit des molécules qui soient déjà dans une pratique vivante qui se retrouve sur la comète. Ce que Philae et Rosetta ont montré, je dirais, c'est presque le contraire. C'est que tout ce qui permet au vivant d'exister était peut-être déjà là, de manière potentielle. Fallait-il encore que ça soit mis dans l'environnement qui va bien pour que le vivant apparaisse, et le vivant n'étant pas la synthèse de molécules particulières, mais un processus par lequel ces molécules-là peuvent entraîner quelque chose qui va conduire à ce que nous sommes aujourd'hui.
Mais une fois que la vie est apparue, on a l'impression qu'il est difficile de la faire disparaître. Schrödinger que je cite, enfin non, c'est plutôt Schrödinger qui cite Goethe, il dit « La vie est éternelle, car il y a des lois pour préserver les trésors de la vie dont l'univers se pare. » Et vous-même, Pierre-Henri Gouillon, vous expliquez qu'il y a un fil, c'est le titre de votre ouvrage, « Le fil de la vie ». Ce fil, c'est de l'information par laquelle la nature se parle à elle-même, à la fois dans sa phase présente, et dans sa phase future, comme si la nature parlait à son propre futur. Ça fait bizarre, non, dans la bouche d'un...
Oui, c'est très bizarre. Effectivement, les rapports entre le passé, le présent et le futur, ça a longtemps été un vrai problème dans ces questions. Tout ce qu'on dit là a déjà été dit très globalement dans la philosophie grecque. Dans le banquet, Platon fait parler à Diophime et lui dit que effectivement le vivant est éternel, mais qu'il survit à travers la mort des individus. Donc ce genre d'idée-là existe depuis l'Antiquité. Et pour le problème du passé, du présent, effectivement, et de l'avenir, c'est un problème qui a vraiment créé des vraies controverses dans l'Antiquité, puisque Aristote repère, et chacun d'entre nous le fait, en fait, quand on voit un être sur Terre et qu'on se demande s'il est vivant ou pas, au fond, l'idée qui prédomine, c'est de se demander si cet objet est finalisé. D'ailleurs, ça fait partie des discussions théologiques sur la question. Hein, on dit, si je vois, c'est Paley qui disait ça, la théologie naturelle, si je vois une montre sur une plage, je sais qu'elle n'est pas pareille qu'un caillou, parce que la complexité des rouages et le fait que ces rouages sont manifestement destinés à faire quelque chose me dit qu'il y a eu, alors lui dit, une intelligence pour le produire.
Une intention.
Or, quand je vois un être vivant, on voit la même chose. Mais évidemment, le problème de l'intention, après, il va falloir vraiment discuter ce que c'est. C'est-à-dire que, alors, vous savez, ça s'appelle la finalité, donc l'idée qu'il y a une cause finale, que tout compte fait, et ben, si j'ai une main, c'est pour prendre. Et c'est ce que dit Aristote, 300 ans avant Jésus-Christ. Et 100 ans plus tard, Lucrèce va dire que Aristote a dit une bêtise, parce que, évidemment, que la main ne pouvait pas savoir qu'elle allait prendre avant même d'être construite, que la cause doit nécessairement précéder l'effet. Je crois que là, les physiciens et les biologistes sont d'accord là-dessus. Et donc, je ne peux pas dire que la cause de la main se trouve dans le futur, au moment où elle pourra attraper, alors qu'elle est fabriquée avant. Et c'est Darwin qui va résoudre ce paradoxe apparent en disant que non, la main effectivement n'est pas fabriquée parce qu'elle permettra d'attraper, elle est fabriquée parce qu'elle a permis aux ancêtres d'attraper et que grâce à l'hérédité, eh bien ce qui s'est passé avant donne un effet aujourd'hui à travers l'hérédité et la sélection naturelle. Donc en réalité, ce qui est intéressant, c'est que à chaque instant, ce qui permet à un organe de se transformer, ce sont des mutations absolument, on va dire, aléatoires, c'est-à-dire sans rapport avec ce à quoi elles serviront. Donc au fond, à l'échelle très fine, c'est Lucrèce qui a raison. Toute nouveauté en évolution est absolument fortuite et n'est pas destinée à quelque chose. Mais à force de collectionner les nouveautés utiles, la sélection naturelle finalise des organes vivants et les êtres vivants apparaissent finalisés par le fait que la sélection naturelle n'a conservé que ce qui marchait bien.
Il y a une information qui est transmise, et ce que vous essayez de faire, c'est de penser la notion d'information sans l'associer à une finalité.
Absolument. Alors l'information, le malheur, c'est que c'est un concept un peu flou, hein. Je le dis, même s'il y a eu la théorie de l'information développée en physique, c'est pas tout à fait d'ailleurs dans le même sens que celui des physiciens qu'on emploie le mot information dans le langage courant. Et donc, on a effectivement cette information codée sur cette molécule d'ADN qui se transmet de génération en génération. Et ce qu'il y a de remarquable avec l'information, et une des choses d'ailleurs remarquables qu'avait déjà remarqué aussi d'ailleurs Schrödinger, il le dit en filigrane quelque part, il dit que la chose la plus extraordinaire au monde, c'est qu'effectivement, il y a cette information qui arrive à se transmettre à travers les êtres vivants. Il dit qu'il y a une seule chose qui soit aussi extraordinaire, c'est le fait que tout ça ait donné naissance à nous qui sommes capables nous aussi de transmettre de l'information. Et tout compte fait, Il y a bien une grande similitude entre les deux. Je voudrais juste vous dire que, vous voyez, une information écrite sur du papier, eh ben vous pouvez la scanner dans un ordinateur, vous pouvez la prendre par cœur, vous pouvez l'enregistrer en parlant, et à chaque fois, vous allez avoir des supports matériels différents et ça sera la même information. Donc l'information est bien portée par la matière, mais la raison pour laquelle on a employé le mot immatériel dans le sous-titre de notre livre, c'est que, bien sûr, l'information est portée par la matière, mais elle n'est pas réductible à la matière qui la porte. C'est une émergence, elle est largement au-dessus de la matière, et elle peut changer de support matériel sans changer de nature. Ce qui est aussi vrai pour les langages humains que pour les langages de l'ADN. On a aujourd'hui montré qu'on pouvait prendre des séquences d'ADN, les écrire dans un ordinateur, refabriquer un chromosome dans l'ordinateur, complètement virtuel, donc, et ensuite faire une machine qui refabrique ce chromosome en vrai, en ADN, le mettre dans une bactérie, et la bactérie fonctionne avec le nouveau chromosome. La personne qui a fait ça, qui s'appelle Craig Venter, enfin son laboratoire, s'est même amusé à mettre un petit poème en plus dans l'ADN, etc. Il y a même des problèmes de droit d'ailleurs, parce que le type qui a écrit le poème, on ne lui a pas donné de droit sur ce génome, enfin bref, vous voyez. Mais on peut, vous voyez, transformer de l'information informatique en information génétique, mettre ça dans une bactérie et ça tourne. Donc il y a une très très grande puissance de l'information et indépendance par rapport au support matériel. Voilà, ça c'est.
Et à propos de l'information, dans votre livre, page 75, vous dites qu'il est possible que l'utilisation d'armes létales par Homo sapiens ait rendu le muscle obsolète par rapport au renseignement. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a des ennemis puissamment armés, il vaut mieux avoir des informations que des muscles. Et c'est ça qui aurait. Alors ça, c'est l'argument à votre idée de cette information comme étant le fil conducteur du maintien de la vie au cours des âges.
C'est un des thèmes de recherche de favori de Jean-Louis Dessalles, qui se pose la question pourquoi on passe tant de temps à parler dans une journée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais faites le compte. Non, mais justement, on parle beaucoup plus de temps à parler qu'à s'espionner. Et l'idée générale, c'est on parle pour échanger des informations. Mais si c'était vrai. En fait, notre but, ça serait de recueillir des informations. Donc, on serait tout oui aux autres, et puis on parlerait pas beaucoup. On parlerait que quand il y a besoin d'envoyer la balle pour que les autres nous en renvoient. C'est absolument le contraire qui se passe. Donc, puisque les gens veulent tellement parler, c'est que une des fonctions importantes du langage chez les humains, c'est pas seulement d'acquérir de l'information. Et en réalité, son hypothèse, c'est que c'est une manière de prendre une position sociale et d'avoir un groupe d'amis et d'être dans une position sociale favorable. Et ça, d'après lui, ça a dû être nécessaire dès le début, parce que dans une espèce où même si vous êtes très fort, il faut que vous dormiez la nuit, et où un type beaucoup moins fort que vous, armé de n'importe quelle massue, pourra vous casser la figure, eh ben, la seule sécurité que vous avez, c'est d'avoir des amis. Et les amis, ça s'acquiert.
Qui ont des tuyaux.
En parlant. Voilà.
Jean-Pierre Buring, vous avez souhaité que nous lisions un texte de l'Antiquité, d'Épicure, qui va être donc lu par Léon Bonafé, et on vous demandera une réaction ensuite.
Donc c'est une lettre d'Épicure à Hérodote, qui date de 305 avant Jésus-Christ. « Ce n'est pas seulement le nombre des atomes, c'est celui des mondes qui est infini dans l'univers. Il y a un nombre infini de mondes semblables aux nôtres, et un nombre infini de mondes différents. En effet, Puisque les atomes sont en nombre infini, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y en a partout, leur mouvement les portant même jusque dans les lieux les plus éloignés. Et d'autre part, toujours en vertu de cette infinité en nombre, la quantité d'atomes propres à servir d'élément, ou autrement dit de cause, à un monde, ne peut être épuisée par la constitution d'un monde unique, ni par celle d'un nombre fini de mondes, qu'il s'agisse d'ailleurs de tous les mondes semblables aux nôtres ou de tous les mondes différents. Il n'y a donc rien qui empêche l'existence d'une infinité de mondes.
France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein.
Jean-Pierre Bivring.
Oui, on pourrait parler que de ce texte, en fait, parce que je trouve ça tout à fait remarquable. D'abord, de penser que ça fait plus de 2000 ans que dans l'Antiquité, donc, et c'est peut-être pas le premier à avoir écrit des choses comme ça. En tout cas, on a ce texte-là. Quelqu'un fait d'abord une définition de l'infini, je trouve remarquable. S'il y a une infinité de mondes, il y en a forcément qui nous ressemblent et il y en a forcément qui ne nous ressemblent pas. C'est la plus belle définition de l'infini. Et c'est vrai que si le monde, s'il y a un nombre infini d'objets, un nombre infini, on peut pas exclure le fait qu'il y en ait un où il se passe exactement la même chose et quelqu'un est en train de prononcer la même phrase que je suis en train de prononcer, puisqu'il y en a un nombre infini, on peut toujours augmenter le nombre de cas où chercher la réalité. Mais cette histoire de pluralité des mondes qui a été ensuite brutalement arrêtée, d'abord chez les Grecs, puis après par un millénaire et demi de tous les monothéismes, puisque la Terre a été créée, elle a été créée unique. Il a fallu, après, tout le travail de Copernic, bien sûr, puis Giordano Bruno, puis Galilée, etc., qui ont montré qu'effectivement, partout, les mêmes lois opèrent. Et si partout, les mêmes lois opèrent, et c'est ça le syllogisme, les mêmes effets sont à attendre. Et donc, nécessairement, il y a ailleurs la même chose qui s'est constituée que ce que nous sommes. Il y a donc forcément d'autres terres.
Sauf s'il y a de la contingence.
Mais voilà, mais c'est bien ça la question. C'est que pendant plusieurs siècles, ce qui a dominé, c'est l'idée qu'à partir des mêmes causes, on va produire les mêmes effets. Et donc jusqu'à très récemment, et pour l'essentiel encore aujourd'hui, je suis sûr que si on fait un sondage ici, plus de 95% des gens vont dire évidemment qu'il y a de la vie ailleurs. C'est impossible, d'abord par humilité, pourquoi ça serait que nous? Et parce qu'effectivement, on est convaincu de cette idée derrière que parce que les mêmes lois opèrent, et 4 siècles d'ondes physiques ont réellement montré que partout les mêmes lois opèrent, il y a forcément partout les mêmes effets, et la pluralité des mondes est ressortie comme cela, comme une réalité. Et c'est aujourd'hui, parce qu'on a la capacité justement d'aller ailleurs que sur Terre, aller voir ailleurs ce qui se passe, dans notre propre système, où ce qui ressort est effectivement la diversité des objets qui pourtant sont nés de l'évolution d'un même nuage initial, le même système solaire a fabriqué des mondes extraordinairement différents, et maintenant qu'en plus on a la capacité non seulement de voir notre système et d'aller voir les autres systèmes, puisqu'il y a plusieurs milliers d'autres systèmes qu'on est capable d'aller voir maintenant, si on peut dire, par l'observation, on n'a pas encore été sur place, bien sûr, on s'aperçoit qu'à cette échelle-là aussi, notre système est extraordinairement particulier. Non pas que les autres seraient tous pareils, mais que tous les systèmes sont différents. Donc la pluralité des mondes est en train, au contraire, de donner naissance à un tout autre paradigme, qui est celui de la diversité des mondes, avec cette idée que pour comprendre la diversité, il faut bien sûr comprendre ce qui est structurant. C'est vrai que les lois partout
donc
sont les mêmes.
Donc il y a une sorte de biologie,
la contingence,
de biologie des systèmes planétaires.
On peut le dire comme ça, mais c'est pour ça qu'au début, je disais que la contingence n'est pas l'apanage de la seule biologie. Je pense que biologie comme physique ont besoin de mettre ensemble ce qui structure, sans quoi il n'y aurait pas de contingence, et ce qui contingence, sans quoi il n'y aurait aucun désordre et aucune une banalité folle.
Et là, donc, ça amène à la question que je vais poser à l'un et à l'autre, c'est est-ce qu'on a besoin de voir de la vie ailleurs pour savoir ce qu'est la vie ?
On utilise pour ça un concept, celui de vivant, qui, exactement comme la physique a été amenée à repousser un certain nombre de concepts, comme celui de force, qui était de la magie noire quelque part, interaction à distance, comme on travaille sur la masse et la température, je pense que le vivant aussi est un concept qui avait sa pertinence à un moment donné, et je crois qu'il faut le repousser aujourd'hui vers d'autres manières de voir les choses. Donc c'est pas le vivant, je pense personnellement que le vivant tel qu'on le conçoit aujourd'hui est extraordinairement adapté à notre planète telle qu'elle a évolué. Et donc on peut trouver ailleurs d'autres formes d'évolution, de chimie, chimie organique, de ce qu'on pourrait appeler de la chimie biologique, si on veut qu'il y ait du carbone, de l'hydrogène, qui fassent des liaisons différentes. Mais il n'y a, de mon point de vue, aucune raison que ça conduise au même processus d'évolution.
Pierre-Henri Gouillon, comment réagissez-vous à cette idée que votre discipline n'est pas exportable ?
Pour répondre à la question, je citerai déjà un des plus grands penseurs de la biologie, de l'évolution et de la biologie en général, d'ailleurs, de la fin du XXe siècle, qui s'appelait John Maynard Smith, qui a écrit que, effectivement, c'est bien malheureux qu'on n'ait qu'un seul exemple d'évolution biologique, celui de la Terre, parce que ça nous limite beaucoup dans notre compréhension de qu'est-ce qui est contingent et qu'est-ce qui n'est pas là-dedans. Effectivement, c'est une vraie question. est-ce que la seule molécule capable de porter de l'information stable et lisible et productible par des processus de chimie prébiotique, comme on dit, eh bien c'est l'ADN, ou est-ce que il y aurait d'autres manières de faire? Ben, on n'en sait rien, évidemment. Est-ce que le fait de voir des êtres comme nous, dotés d'un organe qui leur permet de réfléchir, de se projeter dans l'avenir, etc., un cerveau, etc., est-ce que c'est un truc qui va arriver à tous les coups, ou est-ce que c'est rarissime? Ben, on peut pas le savoir. Alors, ce que Maynard Smith a proposé, c'est de dire, écoutez, on peut pas attendre que les astrophysiciens soient capables de décrire la vie sur les autres planètes, parce que ça risque de prendre un peu trop de temps. Démontrer qu'il y ait de la vie sur une planète, ça va déjà pas être facile, mais alors comprendre comment elle marche, alors ça, je pense que ça va quand même demander des trucs qu'on sait pas du tout faire aujourd'hui. Et il disait, ben, il y a peut-être une autre solution, c'est de travailler sur de la vie artificielle. Et effectivement, aujourd'hui, il y a des gens qui font des thèses en robotique, par exemple, en étudiant la façon dont évoluent, par exemple, des systèmes de coopération entre des robots. Vous mettez des robots et vous leur demandez de se débrouiller pour faire quelque chose, et puis, sous certaines conditions, vous les voyez se mettre à coopérer, et pas dans d'autres. Et donc, on peut regarder si les processus de coopération entre robots ont quelque chose à voir avec les processus de coopération entre les êtres vivants naturels, en quelque sorte. Hein. Il y a de la coopération un peu partout dans le monde vivant. Et donc peut-être que l'évolution artificielle, évidemment, on peut toujours dire oui, mais comme ça a été fabriqué par des humains, c'est pas absolument aléatoire comme système, certainement. Mais enfin, n'empêche que on peut regarder comment évoluent des systèmes de vie artificielle qui soient pas du tout fondés sur les mêmes principes que la vie biologique. Et donc peut-être que ça nous donnera une petite idée de quels autres chemins l'évolution aurait pu suivre.
Vous avez cité un biologiste, je vais citer un physicien, Feynman, prix Nobel de physique, qui disait « Je ne peux pas comprendre ce que je ne peux pas construire ».
Alors ça,
est-ce que c'est un argument qui vous parle? Est-ce qu'on a besoin de pouvoir construire la vie artificiellement pour prétendre la comprendre?
Non, je pense pas qu'on puisse dire ça. Heureusement que je peux espérer comprendre, le fonctionnement de la planète Terre sans être capable de construire la Terre. Faut pas exagérer quand même. Donc, il y a des moments où c'est clair qu'on peut montrer que cette phrase ne s'applique pas. Et alors, surtout, ce que je trouve très important à dire sur une phrase comme celle-là à l'heure actuelle, c'est que malheureusement, il suffit pas du tout de pouvoir construire quelque chose pour le comprendre. Et c'est ce qu'on voit avec les nouvelles technologies qui se produisent dans le domaine de la biologie, où on voit arriver des gens qui de plus en plus construisent des objets sans les comprendre.
Inversement, si on était capable de le construire,
c'est pas pour ça qu'on le comprendrait.
C'est encore pire.
Voilà, mais ça c'est quelque chose que j'ai vu de façon extraordinaire. J'ai même entendu des gens dire très clairement, ce qu'il y a de génial avec les nouvelles techniques moléculaires, c'est en biologie, c'est qu'on peut carrément faire des trucs sans avoir du tout besoin de les comprendre. En revanche, le fait d'avoir construit certains objets nous permet souvent par analogie de comprendre des objets qu'on comprenait pas avant. L'exemple le plus classique, c'est le cœur. On s'est demandé à quoi servait le cœur. Vous savez que on a longtemps pensé que c'était l'endroit où se réfugiaient les sentiments. Il y a encore des gens qui pensent ça. J'ai un ami qui a été greffé du cœur il y a quelques années, et le maire de son petit village lui a demandé si ça avait changé ses sentiments vis-à-vis de sa femme. Il a ri. Donc, il s'appelait pas Clinton. Donc, voilà, ça c'était pour la petite histoire, mais donc l'idée que le cœur est une pompe a été proposée par Harvey dans l'Angleterre qui s'industrialisait, où il y avait des pompes partout. De la même façon, l'idée qu'il existe une information codée dans le monde vivant qui se transmet, eh bien, elle est apparue au début de l'informatique, et je pense que c'est pas un hasard. Et d'ailleurs, Darwin n'a compris la sélection naturelle que grâce à l'observation des sélectionneurs d'animaux et de végétaux, et l'origine des espèces commence par une description détaillée de la façon dont les éleveurs et les horticulteurs sélectionnent les animaux et les plantes. Donc, oui, je pense qu'on a besoin de construire des objets pour comprendre des grands fonctionnements, mais malheureusement, ça suffit pas pour comprendre tout.
Jean-Claude Bérine.
Quand on parle des principes de la vie et qu'on cherche si ailleurs il peut y avoir une vie qui serait différente sur les mêmes principes ou au contraire qui sera la même sur d'autres principes, je pense qu'on fait une erreur quelque part, parce que le vivant tel que je le conçois, il est lié aux principes qui sont ceux du vivant sur Terre. Ce qu'on peut, c'est ailleurs chercher si les mêmes principes existent, si une même séquence de processus aurait pu conduire à ce que nous sommes, mais ça sera toujours que pour essayer de savoir si ce que nous considérons être le vivant sur Terre peut s'être produit ailleurs. Ça n'a pas de sens, de mon point de vue, d'essayer de chercher quelque chose qui serait le résultat d'un principe du vie, parce que j'ai toujours pas compris ce que les biologistes appellent le principe de vie. Cette histoire d'information, C'est un constat. C'est vrai que le vivant maintient une information. Mais est-ce que c'est ça qui caractérise le vivant? Est-ce que le vivant était réellement la seule manière que la nature, comme on dit, a de maintenir le vivant? Le mot de nature, par exemple, qui était... Souvent, on met l'homme déjà pas dans la nature, alors que l'homme est dans la nature. Et souvent, on met la nature par rapport au linéaire. Mais la nature, c'est quoi aussi? C'est aussi
nous
un constat médiéval qu'elle
part convertir. Nous allons répondre intégralement à cette question, mais avant, nous allons écouter la lecture d'un texte par Léon Bonafé, qui raconte de façon assez brève une très longue histoire.
Donc, ce sont les premières pages d'un essai de Trinh Duan Thuan, qui s'appelle « Le chaos et l'harmonie ». Un beau jour de printemps à Paris. Dans un café, un homme savoure une bière tout en lisant son journal. À la table d'à côté, une femme boit son café tout en regardant déambuler les piétons. Ils ne se sont pas vus. Tout à coup, l'homme tourne la tête et son regard croise celui de la femme. Se déclenche alors une série d'événements. La lumière dorée du soleil, réfléchie par le corps svelte de la femme, pénètre dans les yeux de l'homme. Voyageant à la vitesse de 300 000 km à la seconde, 10 000 milliards de particules de lumière, les photons, s'engouffrent chaque seconde dans chacune de ses pupilles, traversant d'abord un corps ovale, appelé cristallin, puis une substance transparente et gélatineuse, avant d'aboutir sur la rétine. Dans la rétine, 5 millions de cellules en forme de cône et 100 millions d'autres en forme de bâtonnets entrent en action. Les cônes sont sensibles aux fortes intensités lumineuses, et sont responsables de la vision en couleur le jour, tandis que les bâtonnets ne fonctionnent qu'aux faibles intensités lumineuses et sont responsables de la vision monochrome la nuit. Certaines cellules reçoivent une grande quantité de lumière, celle qui provient des zones brillantes du corps de la femme, comme ses lèvres moites soulignées par un brillant rouge à lèvres. D'autres reçoivent moins de lumière, celle qui provient de zones plus ombragées du corps de la femme, telles ses joues légèrement fardées. Chaque cône et chaque bâtonnet contient des pigments. Chaque molécule de pigment est à son tour composée de 20 atomes de carbone, de 28 atomes d'hydrogène et d'une molécule d'oxygène. Ces molécules enregistrent la lumière en effectuant une sorte de ballet étrange. Au repos, quand elle n'est pas activée par la lumière, la molécule de pigment est rattachée à une protéine et est toute recroquevillée. Mais quand une particule de lumière la frappe, cette molécule se sépare de la protéine et se redresse. Un certain temps passe et elle se recroqueville de nouveau en attendant l'arrivée de la particule de lumière suivante. Tous ces événements ont pris moins d'un millième de seconde depuis que le regard de l'homme s'est posé sur la femme. Pourtant, l'homme n'est toujours pas conscient de la présence de la femme puisque l'information contenue dans les particules de lumière n'est pas encore parvenue à son cerveau. La danse des molécules dans la rétine va mettre en branle des neurones d'abord dans les yeux, puis dans le cerveau.
Jean-Pierre Bibring vient de dire que la notion de nature, je ne sais pas trop ce que c'était, alors même que mon voisin de gauche, Pierre-Henri Gouillon, dit que la nature se parle à elle-même. Et d'ailleurs, vous donnez un exemple qui m'a beaucoup intrigué, page 179 de votre livre, les gazelles. Il y a certaines gazelles, quand le lion approche, au lieu de fuir, saute verticalement. Donc sans s'échapper, pour montrer aux lions qu'elles sont en pleine forme, qu'elles sont donc capables de courir très vite et qu'il ferait mieux de s'attaquer à la petite copine qui, elle, n'a pas la force de sauter. Est-ce que c'est ça l'information dans la nature?
Alors ça, c'est une forme d'information sociale, en quelque sorte. Je voudrais essayer de répondre à Jean-Pierre Bibring sur la question de ce que pourrait être une définition de la vie qui transcende de nos connaissances terrestres. Je pense que, effectivement, pour moi, quelle que soit sa forme, quels que soient les atomes et les molécules qui la composent, j'aurais tendance à appeler être vivant, n'importe où dans l'univers, une structure finalisée vers la reproduction d'une information écrite sur une molécule, quelle qu'elle soit. En fait, c'est un peu compliqué d'imaginer, vous voyez, cette molécule d'ADN, chez nous, mais ça pourrait être autre chose, mais n'importe quel cristal apériodique, pour reprendre le mot de Schrödinger, qui contient une information. Mais une information codée, en réalité, ça veut rien dire tant qu'il n'y a pas quelque chose qui la lise. Et ce qui est remarquable, c'est que l'ADN, c'est une molécule où il écrit des choses, mais il y a tout un système moléculaire qui va lire cette information, qui va le lire, on sait très bien comment, par mot de trois lettres, ça va fabriquer des protéines, ces protéines vont avoir des repliements qui statistiquement vont donner certains effets, et c'est ainsi que constamment dans chacune des cellules de notre corps, en ce moment, notre ADN est lu, et il est lu par tout ce système, et il est lu dans un environnement donné. Il y a vraiment trois composantes dans un être vivant, qui sont donc l'information de base écrite sur l'ADN, tout le système de lecture qui contient lui aussi une information de manière à pouvoir la lire. Si je vous donne un texte dans une langue que vous ne connaissez pas, et ben ça, vous n'en tirerez pas d'information. Donc pour lire un texte, il faut savoir le lire. Et donc le vivant a ses molécules porteuses d'information, tout un système qui lit l'information, et l'ensemble se produit dans un environnement donné. Dire qu'un gène produit une protéine, ça serait comme dire qu'une recette de cuisine a fabriqué une tarte aux pommes, si vous voulez. On n'a jamais vu une recette fabriquer une tarte. Ce qui fabrique la tarte, c'est le cuisinier. Donc il vous faut une recette, un cuisinier et un environnement. La cuisine, les pommes, le beurre, le four, tout ça. Et c'est avec ces trois trucs-là...
La recette, c'est l'information.
Donc la recette, c'est l'information de base, mais évidemment, il y a aussi de l'information dans le cuisinier. Et puis que l'environnement a son importance. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Schrödinger, dans son livre, dit bien ça. Un système isolé ou placé dans un environnement uniforme, qu'il vaudra mieux du point de vue des considérations qui vont suivre, considéré comme faisant partie intégrante du système que nous étudions. Donc l'environnement fait partie du système. Le vivant, c'est pas des choses, et puis il y a un environnement à côté. L'environnement fait partie du système vivant, de même que le message et le système de lecture. C'est une des choses sur lesquelles on est parti dans notre livre. C'est l'idée qu'il y a un message, un décodeur, un environnement, MDE, on appelle ça, et c'est ce triplet qui fabrique effectivement un être vivant. Mais Je pense que si on trouve ça ailleurs, on pourra appeler ça de la vie.
On voit quand même une tendance de cette information à vouloir se continuer dans le futur. Vous écrivez... On dit souvent que la poule n'est qu'un moyen imaginé par l'œuf pour produire un autre œuf. Si l'on tient compte de Darwin, on devrait même dire que la poule est un moyen imaginé par l'œuf pour produire le plus grand nombre d'œufs. Mmh. C'est bien ça. Pourquoi on parle jamais du coq?
C'est un autre sujet, mais effectivement,
c'est le sujet des quotas.
Pour les évolutionnistes, je dois vous dire quelque chose de très désagréable, Étienne Klein, je suis désolé, mais les mâles sont des parasites des femelles. Les descendants, c'est les femelles. Les mâles ne font que mettre un tout petit bout d'ADN dedans et vraiment pas grand-chose. En fait, les femelles peuvent très bien se passer des mâles, ça existe dans des tas d'espèces.
En tant que minorité, ils pourraient revendiquer justement d'être...
Les parasites sont plus ou moins minoritaires. En tout cas, ce qui est remarquable, c'est que... Une amie très chère, qui est Françoise Héritier, qui est une anthropologue qui a travaillé beaucoup sur les questions de sexe et de genre, a montré que dans presque toutes les cultures, il y a des mythes qui servent à redonner aux hommes la primauté dans la production des descendants, alors que c'est pas difficile de voir que c'est les femmes qui font les enfants. Et en France, il y a plein d'irresponsables qui disent encore aux enfants que le papa met une petite graine dans le ventre de la maman. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais la graine, je suis désolé, je travaille sur les plantes, la graine, c'est le produit de l'activité femelle d'un individu. C'est les femmes qui font la graine. Le père, il a mis un tout petit machin à l'intérieur. Il faut arrêter de dire ça aux enfants. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que le père fabrique l'enfant et que la mère est un terreau plus ou moins fertile dans lequel germera le produit du père. Vous voyez que...
Vous avez un chapitre sur la sexualité du thym qui est assez original. Peut-être que vous pouvez en délivrer le message principal.
Oula, ça va être compliqué ici, calmer, je sais pas, enfin. C'est vrai que moi, la façon dont je suis venu à penser les choses en termes d'information et non pas en termes de stricte matière, en matière de biologie, c'est parce que j'ai étudié le sexe du thym. Ça faisait beaucoup rire mes amis quand je disais que j'étudiais le sexe. Le thym, vous savez, c'est cette plante qui pousse dans la garrigue montpelliéraine et voilà, qui sert à faire de la cuisine, entre autres. Et il a un sexe tout à fait particulier. Il y a des femelles et des hermaphrodites. Alors les femelles, elles font des graines et les hermaphrodites, ils font du pollen et des graines. Bon. Mais la proportion de femelles est extrêmement variable. Elle varie de 0 à 100%. Et on n'a rien compris à ce système tant qu'on n'a pas compris qu'il y a des gènes qui sont transmis par le père et par la mère. Ça, vous avez l'habitude d'entendre dire ça. Mais il y a aussi des gènes qui sont transmis que par la mère. C'est des gènes, pour ceux qui connaissent, des mitochondries, qui sont des petites anciennes bactéries qui sont dans le cytoplasme des cellules. Donc certains gènes ne sont transmis que par la mère. Et j'avais fait des tas de modèles mathématiques, d'ailleurs, pour comprendre ce qui se passait. C'est Maynard Smith qui m'a expliqué la philosophie de mon propre modèle. Je me souviens, un jour, il m'a dit, mais si j'étais un gène de mitochondrie, j'aurais pas envie de faire du pollen, puisque le pollen ne reproduit pas les gènes des mitochondries, la mitochondrie n'est transmise que par la mère. Et donc en fait, on a fini par comprendre que les gènes des mitochondries se battaient avec les gènes des autres gènes. Les gènes des mitochondries ne veulent pas faire de pollen, les autres gènes veulent en faire, donc les uns coupent la production de pollen, les autres la remettent, et la bagarre entre ces deux types de gènes, quand il y en a un qui gagne, il y a beaucoup de femelles, quand c'est l'autre, il y a beaucoup d'hermaphrodites. Et là, on se rendait compte que tout compte fait, c'est pas l'individu qui est sélectionné, mais c'est ses gènes. que si les êtres vivants sont finalisés, c'est par le processus constant depuis des milliards d'années de sélection des gènes qui ont réussi à induire l'existence d'individus qui les reproduisaient le mieux possible. Nous sommes des artifices inventés par nos gènes pour se reproduire.
France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein.
Jean-Pierre Bibring, est-ce que vous avez lu le livre de Pierre-Henri Gouillon écrit avec ses deux co-auteurs, Le fil de la vie? Est-ce que cette notion d'information, qui a été décrite par les physiciens, mais pas seulement, vous parle? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez appuyer vos propres réflexions ou recherches?
Alors, il y a deux questions là-dedans. Est-ce que ça me parle? Oui. Est-ce que ça nous aide? Pas vraiment, à vrai dire. Parce que, si vous dites, je veux faire une mission spatiale pour aller chercher de l'information sur Mars, vous savez pas sous quelle forme elle va se trouver, cette information.
C'est ça, la périodique.
Oui, mais il y a énormément d'informations stockées dans énormément de choses. Hein. Donc, vous êtes constitué de particules qui ont une information incroyable sur la manière dont le Big Bang a évolué, etc. Donc, l'information ne se retrouve pas que dans les êtres vivants. C'est ça, bien, la difficulté que l'on a. On essaie de voir ce qui est spécifique à ce qu'on appelle le monde vivant. Et à nouveau, ce à quoi on aboutit assez rapidement, c'est à l'idée que le monde vivant, on peut le définir sur Terre, mais pas forcément au niveau de principe qui serait générique dans l'univers. Alors, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est justement d'essayer de comprendre la séquence de processus qui a amené à ce que le vivant tel qu'on le conçoit aujourd'hui se manifeste, évolue, etc., et est superbement décrit dans ce livre. Depuis qu'on essaie de comprendre comment ça se passe, on arrive à cette idée que, bien sûr, il y a ces lois, mais il y a donc une succession de processus qui ont réellement traduit ce qu'on appelle à nouveau cette contingence d'une manière absolument incroyable. Par exemple, l'eau est nécessaire, en tout cas pour la vie sur Terre, on commence à le comprendre. Mais l'eau, par exemple, on commence juste à comprendre comment l'eau est arrivée d'une manière stable sur Terre, et probablement depuis plus de 4 milliards d'années, probablement 4-3 milliards d'années, c'est-à-dire très peu de temps après que la planète soit formée, il y a déjà eu une succession de processus qui ont permis à l'eau d'arriver à la surface et de rester stable. Mais il a fallu effectivement des conditions très particulières. La preuve, c'est que c'est probablement passé nulle part ailleurs, peut-être sur Mars, mais très, très peu de temps, ça a disparu sur Mars parce que l'atmosphère a été soufflée. Donc on reconstitue tout ce qui fait qu'à un moment donné, il a pu y avoir un environnement sur Terre qui a permis que ce premier processus se passe. Mais pour autant, il fallait que les ingrédients arrivent. Et ce qu'on a fait d'ailleurs avec Rosetta, c'est d'essayer de comprendre ce que voulaient dire ces ingrédients. Mais les ingrédients formés d'une manière très particulière, qui probablement avaient déjà toutes les conditions spécifiques nécessaires, ce qu'on appelle les excédents de chiralité, sur lesquels on pourrait discuter, parce que moi je crois que c'est parmi le plus important de ce qui a été fabriqué à un moment donné, et que le vivant tel qu'on le conçoit est utilisé ensuite. Il a fallu que ça arrive sur Terre, et non pas sur Terre, mais dans les océans, puisqu'on sait que l'atmosphère de la Terre primitive ne filtrait pas assez le rayonnement ultraviolet stellaire du Soleil, et qu'il fallait se protéger. L'eau a été essentiellement un filtre contre tout ça. Et la difficulté, c'est qu'on sait très bien que toutes les molécules, les macromolécules qui vont constituer le vivant, si vous mettez trop d'eau dedans, elles se détruisent. Donc il a fallu fabriquer, et c'est ça que je trouve extraordinaire dans le processus initial, il a fallu fabriquer des structures qui isolent des mondes, ce qu'on appelle des cellules, du monde extérieur. La première, de mon point de vue, faculté de l'émergence du vivant, c'est la faculté de fabriquer des membranes. Et quand on voit ce que ça suppose de fabriquer des parois aux ancêtres des bactéries, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc quand on rentre dans ce processus, on se dit, qu'est-ce qu'il faut pour qu'à un moment donné, un milieu soit capable de dire, j'ai besoin d'eau, mais pas trop, donc je vais mettre un petit peu d'eau, mais au bout de 3-4 jours, il faut que j'ai suffisamment évolué pour me protéger du reste, parce que sinon je détruis tout. Sans quoi il n'y aurait pas eu de vie sur Terre. Mmh. Eh bien, vous apercevez qu'il faut effectivement les bons ingrédients. Il ne faut pas une synthèse sur place. Toutes les idées selon lesquelles la vie est apparue de réactions qui sont passées sur Terre à partir de petites molécules, etc., probablement sont erronées. Probablement, ces macromolécules, avec les bonnes caractéristiques, étaient déjà formées ailleurs. Elles sont formées sur des objets qui avaient eux-mêmes une membrane protectrice. Vous savez, si Philae a rebondi, c'est parce qu'à la surface de Philae, on l'a découvert là, non pas de Philae, mais de la comète, des processus qu'on peut comprendre maintenant ont fabriqué une croûte qui fait que quand un objet comme ça est arrivé dans l'atmosphère d'une planète comme la Terre, elle a pu arriver jusqu'aux océans, ensemencée avec ce qu'il y avait dedans, qui sont ces molécules que l'on voit sur nos images. C'est ça qui est très émouvant dans ce qu'on a pu faire, c'est qu'on voit les ingrédients qui, effectivement, ont déjà toutes les propriétés, y compris, je pense, ces excès de chiralité qui ont été si importants. On sait bien que les molécules ne sont pas toutes planes, il y a des molécules qui ont des formes dans l'espace, et qu'à partir du moment où il y a des formes dans l'espace, eh bien, cette forme peut être fondamentale dans la possibilité pour cette molécule de réagir après. Et il y a entre autres des formes qui sont liées au fait qu'elles peuvent polariser la lumière vers la gauche ou vers la droite, c'est pour ça qu'on appelle ça des formes lévogyrodextrogyres. Il se trouve que le vivant, à partir d'un milieu qui a priori était presque équilibré en droite et gauche, a uniquement utilisé une forme. Pour l'essentiel des molécules, c'est la forme gauche. Pour certains, c'est la forme droite, les sucres. Comment ça s'est passé? D'où vient cet excès sur lequel le vivant a pu très rapidement, à l'échelle de quelques jours peut-être, fabriquer ce dont il a eu besoin? Eh bien, il a fallu que l'effondrement du nuage initial, avec le moment où le soleil s'est allumé, qui a pu, par un rayonnement polarisé très particulier, a pu fabriquer ces excès-là, qui sont bloqués dans nos objets cométaires, ils sont arrivés sur Terre et en quelques jours, ça a permis à ce que des réactions se fassent. C'est très important cette histoire de chiralité parce que le vivant est entièrement homochiral. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mélange à peu près égal avec un petit peu plus de l'autre, c'est entièrement l'un ou l'autre. Et on sait que ces molécules chirales sont extraordinairement importantes. C'est ça qui donne le goût, c'est ça qui donne quelquefois...
C'est comme ça que Pasteur a découvert effectivement que le vin c'était fait par des micro-organismes puisque justement il y avait des molécules qui tournaient que dans un sens. Oui.
Donc voilà, ce qu'on essaye maintenant c'est de comprendre cette séquence de processus qui a permis à un moment donné à des molécules de se polymériser ensemble, de fabriquer ces membranes, qui a permis à l'intérieur, au cytoplasme à l'intérieur, d'évoluer vers ça pour aller jusqu'à quelque chose qui plus tard deviendra de l'ADN. Mais on n'a pas besoin de démarrer à de l'ADN. Et donc l'information initiale, se règle essentiellement par une succession de processus, et ça, en soi, c'est déjà quelque chose qu'on aimerait savoir, être ailleurs ou pas.
Mais n'empêche, nous avons tous dans quelque chose comme 10 puissance 14 cellules dans nos organismes, plus... largement autant, peut-être 10 fois plus de bactéries dans nos intestins. Dans chacune de nos cellules, il y a 2 mètres d'ADN, et ces 2 mètres, dedans, il y a une séquence donc apériodique, pour une grande part. Il y a des parties périodiques, mais il y a une séquence apériodique. Est-ce que vous croyez pas que ça serait... On pourrait le voir si ça existait ailleurs un jour ou l'autre. Si un jour, on trouve un endroit où il y a des millions de milliards de molécules apériodiques, très longues, etc. On finirait pas par les trouver ?
Jean-Pierre Guérin ?
Peut-être, si elles se sont maintenues comme telles. Le problème, c'est qu'on sait très bien qu'au bout d'un moment, si la mort de l'individu existe, il peut être détruit. Même la chiralité, la viande devient racémique, etc. Donc, c'est difficile d'imaginer que le plus simple sera de trouver des vestiges d'une évolution comme ça. Cela dit, c'est ce qu'on cherche. On pense que le contingent a été fondamental. Ça ne veut pas dire pour autant que ce processus-là n'est pas assez robuste pour s'être adapté ailleurs. Et on est à peu près convaincu que le meilleur cas possible, c'est Mars. Sauf que Mars, très tôt dans son histoire, a connu des conditions qui ont permis à l'eau d'être stable à l'état liquide, à nouveau qui est un processus très compliqué. C'est arrivé sur Mars. Pendant une période très limitée, on a pu, grâce à l'histoire de Mars, identifier des terrains qui, aujourd'hui encore, en ont gardé la mémoire. C'est extraordinaire. Ce sont les seuls endroits dans le système solaire où on peut aller explorer des roches, essentiellement, des matériaux qui ont gardé cette information-là. Et l'espoir que l'on peut avoir, c'est dans certains de ces matériaux-là, si les missions spatiales, on arrive à les réaliser, et on devrait les réaliser dans les années qui viennent, on pourra de roche en roche, d'argile en argile, parce que les argiles ont cette capacité dans les feuillets de retenir de l'eau et éventuellement des molécules organiques, avoir quelques-uns de ces exemplaires de molécules qui auraient pu évoluer vers des structures que l'on pourrait être amené à considérer des structures très semblables à ce qui a démarré sur Terre. Et ce qui est remarquable aussi, c'est que si on trouve ça, ça nous dira comment ça a démarré sur Terre aussi. Parce que là, sur Terre, contrairement à ce que beaucoup pensent, on a perdu toute la mémoire de ce qui s'est passé. On démarre en général l'histoire de la vie sur Terre à 3,7 milliards d'années, mais c'est le syndrome du réverbère. C'est parce que là, il y a de la lumière. On peut pas voir plus vieux. Alors on dit, c'est là que ça a démarré. Mais non, ça a très certainement démarré avant. Mais on ne le sait pas parce que tous les objets ont disparu à cause de l'activité de la Terre. Sur Mars, on a ça. Et une des grandes choses qu'on essaye de faire, en combinant ce qu'on fait sur Mars et les comètes, c'est de voir si un endroit particulier de notre système solaire où l'eau était stable, les mêmes ingrédients venant du ciel, ont pu apporter le démarrage de ça, avec en particulier les premiers êtres unicellulaires, à nouveau, qui auront réuni ce qu'il faut pour se protéger de l'eau elle-même. L'eau est nécessaire, mais il n'en faut pas trop. L'eau, c'est comme le rayonnement ultraviolet. Il en faut un peu pour démarrer. Si vous en mettez trop, vous cassez tout. Eh bien, l'eau, c'est la même chose. Il en faut pour démarrer, mais si vous en mettez trop, vous détruisez tout. Donc, il faut rapidement se protéger contre ce qui vous a permis de démarrer.
Alors, imaginons qu'on arrive à comprendre comment ça a commencé. Est-ce que ça nous aiderait à comprendre, et c'est une question d'enfant que je vous pose, ce qu'est la mort? Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Quand un corps vivant, le nôtre, par exemple, meurt, qu'est-ce qui se passe du point de vue des atomes, des molécules qui le constituent? Est-ce qu'elles se rendent compte? Ou est-ce qu'il leur faut un certain temps pour comprendre qu'elles sont dans un cadavre?
Alors, manifestement, il leur faut un certain temps, puisqu'on trouve, c'est une découverte récente, qu'il y a toute une série de gènes qui se mettent à s'exprimer après la mort.
Donc, ils se réveillent après la mort.
Oui, il y en a, oui. C'est quand même très curieux. Donc, bah, évidemment, ça sert à rien.
C'est trop tard.
Voilà, ils ont raté leur coup. Donc, effectivement, le système ne meurt pas en bloc, hein, ce qui va s'arrêter.
Comment est-ce que la mort se répand dans le corps?
C'est-à-dire qu'elle se répand progressivement par le fait qu'à un moment ou à un autre, le cœur s'arrête ou la respiration s'arrête. Une fois qu'il n'y a plus d'oxygène qui se balade, et ben les tissus qui ont besoin d'oxygène vont progressivement se dégrader et tout se casse la figure comme ça. Donc effectivement, dater la mort précisément, vous savez que c'est un problème et qu'on ne sait pas le faire. Hein. On est obligé de le faire légalement, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de moment évident pour dire à quel moment on est mort. Donc on a pu dire que c'était au moment où le cœur s'arrête, mais comme on sait réanimer des gens qui ont le cœur s'est arrêté, évidemment ça ne suffit pas. Et donc il n'y a pas un moment de la mort, il y a un processus de mort progressif à partir du moment où, en tout cas, les tissus ne sont plus irrigués. Et ce qui peut arriver aussi d'ailleurs, vous le savez, c'est que... Alors l'un des organes de notre corps qui consomme le plus d'oxygène, c'est le cerveau. Il consomme à peu près un tiers de nos ressources. Et si le cerveau n'est pas irrigué pendant un certain temps, eh bien les cellules peuvent être détruites à l'intérieur. Si certaines cellules sont détruites et pas le tronc cérébral, eh bien le corps va pouvoir rester en vie, mais on sera en état de mort cérébrale. Hein. Vous connaissez tous ce terme.
Ça revient à poser la question à propos de la physique. La physique a des équations qui sont réversibles. Donc si on pouvait filmer la façon dont la mort colonise un organisme, en passant le film à l'envers, est-ce qu'on pourrait comprendre comment la vie apparaît ?
Ah, mais de même façon que si vous prenez un feu dans une cheminée, si jamais vous faisiez le truc à l'envers, à la fin vous auriez un tas de bois. Nos cellules pourraient se reconstituer à l'envers après qu'on soit mort. Sauf que le malheur, c'est qu'effectivement, quand on brûle un truc, on ne sait pas refabriquer le bois à partir du feu. Et aujourd'hui, on ne sait pas non plus refabriquer un être vivant à partir d'un être mort.
Jean-Pierre Lévrin.
Oui, mais je crois que ce que l'on tient maintenant, en particulier de ce livre, c'est l'idée que justement le vivant n'est pas mort. C'est que dès que le vivant a démarré, vous pouvez faire mourir tous les intermédiaires qui vont, au niveau des êtres, procéder à la reconduction de l'hérédité, mais le vivant en tant que tel, démarré il y a 4,2 milliards d'années, est toujours là. Eh bien, c'est bien ça l'avantage et la difficulté. Je crois qu'on peut affirmer que le vivant n'est jamais mort, parce que si le vivant était mort à un moment donné, il aurait fallu le redémarrer, et pour le redémarrer, il aurait fallu recréer les conditions qui n'existaient plus, puisqu'elles n'ont prévalu qu'au démarrage du système solaire tel qu'on le connaît. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Il y a eu des conditions qui ont permis au vivant sur Terre de démarrer. Il n'y a jamais eu de conditions permettant au vivant de s'arrêter complètement jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des évolutions, des extinctions, mais des extinctions locales et partielles, et jamais globales. Donc je pense que la mort d'un être... de cette chaîne-là ne nous apprendra pas grand-chose sur les conditions qui ont prévalu il y a 4,3 milliards d'années.
Pierre-Henri Houillon veut nous lire un texte.
Oui, c'est Platon. L'amour est toujours amour de la vie. Il est l'effort, l'élan pour passer du néant à l'être, du sommeil de l'inexistence à l'ivresse de l'exister. L'amour est donc la force universelle de la poésie, car toute poésie est pouvoir de création, puissance qui fait surgir du néant l'être. C'est pourquoi l'amour tend vers l'enfantement. Il est le démon qui travaille les corps comme les âmes, doués de fécondité. Il les contraint à donner naissance à une vie nouvelle, vita nova. Il tend en ce sens vers une existence que ne menacerait ni la maladie ni la mort, qui demeurerait dans une jeunesse perpétuelle, une vie immortelle qui est précisément la vie qui appartient aux dieux, qui sont dans l'Olympe. Et en enfantant selon le corps et selon l'âme, les mortels participent à leur façon à la vie bienheureuse des immortels. La mort de l'individu est niée par la perpétuation de l'espèce et les grands esprits qui font œuvre véritable sont immortalisés dans la gloire.
Je crois que ça va être le mot de la fin.
Ah, voilà.
Le sujet qui nous a réunis, c'est qu'est-ce que le vivant ? J'espère que vous avez trouvé que ce débat était assez vivant, sinon il faut rajouter quelque chose très rapidement. Pour Pierre-Henri Houillon, j'ai un petit cadeau de Noël, c'est une anagramme. L'anagramme de la diversité des espèces. Ça donne des rêves de spécialistes. La diversité des espèces ne correspond jamais qu'à des rêves de spécialistes. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et je souhaite à tout le monde un très joyeux Noël. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique un duo de Benjamin Perru et Benjamin Chauvin, et à la réalisation François Connac. Thank you. tellement tout de suite que c'est presque comme si c'était déjà maintenant. Vous retrouverez Antoine Guillot pour Plan Large, le nouveau rendez-vous cinéma de France Culture.